Les Nuits de la Pierre Bleue, édition 2001, l'anniversaire de l'infante, d'après Oscar Wilde, par la compagnie de l'Épouvantail, théâtre de marionnettes.
C'était l'anniversaire de l'infante. Elle avait tout juste 12 ans. Et dans les jardins du palais, le soleil était éclatant. Bien qu'elle fût une vraie princesse et l'infante d'Espagne, elle n'avait qu'un seul anniversaire par an, tout comme les enfants des pauvres. Et naturellement, il était très important pour tout le pays qu'elle eût en cette occasion une belle journée. Et en vérité, la journée était fort belle. La petite princesse allait et venait sur la terrasse avec ses compagnons et jouait à cache-cache. Pour les jours ordinaires, il ne lui était permis de jouer qu'avec des enfants de son rang, de sorte qu'elle devait toujours jouer seule. Mais son anniversaire était une exception, et le roi avait donné des ordres pour qu'elle invitât tous les jeunes amis avec lesquels il lui plaisait de s'amuser. Mais l'infante était la plus gracieuse de tous, et vêtue avec le plus de goût, selon la mode assez encombrante de ce temps-là. Dans ses cheveux tirés, elle avait même une admirable rose blanche. D'une fenêtre du palais, le roi les observait avec mélancolie. Il se sentait plus triste encore qu'à l'ordinaire, car tandis qu'il regardait l'infante saluer avec une grâce enfantine, il songeait à la mère de l'enfant, la jeune reine qui, il y avait peu de temps, il en avait du moins l'impression, était venue du gai pays de France pour s'étioler dans la sombre splendeur de la cour d'Espagne et mourir tout juste 6 mois après la naissance de sa fille. Ce jour-là, il lui semblait la revoir telle qu'il l'avait vue pour la première fois. Il n'avait alors que 15 ans, et elle était plus jeune encore. Le roi avait aimé la reine avec passion, au détriment, pensaient bien des gens de son propre pays. Pour elle, il avait oublié, ou paru oublier, toutes les affaires sérieuses de l'État. Et lorsqu'elle était morte, il avait semblé pendant un certain temps privé de raison. En vérité, il eut sans aucun doute abdiqué pour se retirer dans le grand monastère trappiste de Grenade dont il était déjà prieur titulaire, s'il n'avait craint d'abandonner la petite infante à la merci de son frère dont la cruauté, même en Espagne, était notoire et que bien des gens soupçonnaient d'avoir causé la mort de la reine au moyen de gants empoisonnés qu'il lui avait offerts lorsqu'elle était venue le voir dans son château en Aragon. Toute sa vie conjugale, avec ses joies ardentes et l'atroce souffrance de sa fin brutale, semblait se dérouler dans son esprit ce jour-là, tandis qu'il regardait l'infante jouer sur la terrasse. Mais le rire aigu des enfants blessait les oreilles du roi, le soleil implacable se raillait de sa douleur, et un étrange et léger parfum d'aromates, de ces aromates dont usent les embaumeurs, semblait, ou n'était-ce qu'une impression, souillait l'air pur du matin. Il enfouit dans ses mains son visage, et quand l'infante leva les yeux de nouveau, le roi avait disparu, et les rideaux se trouvaient tirés. Il eût pu rester avec elle en ce jour d'anniversaire. Que c'était absurde à lui, alors que le soleil était si éclatant et tout le monde si heureux. De plus, il allait manquer le simulacre d'un combat de taureaux pour lequel résonnait déjà la trompette. Sans parler du spectacle de marionnettes. Et toutes sortes d'autres choses merveilleuses. Alors, secouant sa tête charmante, l'infante descendit lentement les marches et se dirigea vers une longue tente de soie pourpre que l'on avait dressée au fond du jardin. Les autres enfants suivirent en observant rigoureusement l'ordre des préséances et ceux dont les noms étaient les plus longs passaient les premiers. De jeunes garçons de la noblesse, travestis en toréador, sortit à sa rencontre et le jeune comte de Tierra Nueva, adolescent de 14 ans d'une beauté peu commune, se découvrant avec la grâce d'un hidalgo né et d'un grand d'Espagne, la conduisit solennellement à un petit siège d'ivoire et de bois doré placé sur une estrade au-dessus de l'arène. Les enfants se groupèrent tout autour. Les fillettes agitaient leurs grands éventails et se parlaient tout bas. Le grand inquisiteur riait. La duchesse elle-même, la camerera mayor, ainsi qu'on l'appelait, maigre femme aux traits durs, n'avait pas l'air aussi grincheux qu'à l'ordinaire. Un vague sourire figé passait parfois sur ses minces lèvres exsangues. Le combat de taureaux était certainement magnifique, beaucoup plus beau, pensait l'infante, que le vrai combat auquel on l'avait emmené à Séville à l'occasion de la visite du duc de Parme à son père. Des garçons chevauchaient fièrement de longs chevaux de bois richement carapaçonnés, brandissant des javelines ornées de banderoles et de rubans aux vives couleurs. D'autres, à pied, couraient en agitant devant le taureau leur manteau écarlate et sautaient légèrement par-dessus la barrière quand le taureau les chargeait. Le taureau lui-même avait l'air d'un taureau vivant, bien qu'il fût fait d'une carcasse d'osier recouverte d'une peau tendue, et persista parfois à courir autour de la reine sur ses pattes de derrière, ce que n'eût jamais songé à faire un taureau vivant. Il se battit, lui aussi, fort courageusement, et les enfants devinrent si excités qu'ils montèrent sur les bancs et agitèrent leurs mouchoirs de dentelle en criant « Bravo taureau, bravo taureau !» avec un à-propos de grandes personnes. La piste fut évacuée au milieu de nombreux applaudissements. Quelques marionnettes italiennes parurent dans la tragédie presque classique de Sophonisbe, sur la scène d'un petit théâtre construit à cet effet. Les poupées jouaient si bien qu'à la fin de la représentation, les yeux de l'infante étaient baignés de larmes. En vérité, quelques enfants se mirent à pleurer, Il fallut les consoler avec des friandises. Et le grand inquisiteur lui-même était si ému qu'il ne put s'empêcher de dire qu'il lui paraissait intolérable que des objets faits de bois et de cire coloriés et mis en mouvement au moyen de fils de fer fussent si malheureux et aux prises avec de telles infortunes. Puis ce fut le tour d'un jongleur africain qui apporta un grand panier plat recouvert d'un drap rouge et l'ayant placé au centre de l'arène souffla dans une étrange flûte de roseau qu'il sortit de son turban. Au bout de quelques instants, le drap commença de bouger. De beaux égyptiens, c'est ainsi qu'on appelait les bohémiens en ce temps-là, s'avancèrent alors dans l'arène et s'asseyant en cercle, les jambes croisées, se mirent à jouer doucement de la cithare, balançant le corps au rythme de la musique et fredonnant d'une voix à peine perceptible un air lent et rêveur. Les Égyptiens jouaient très doucement, ne faisant qu'effleurer de leurs ongles pointus les cordes de leur cithare. Et ils se mirent à dodeliner de la tête, comme s'ils étaient pris de sommeil. Un d'eux entra alors dans l'arène, conduisant par une chaîne un ours brun et velu. Mais le plus divertissant de tous les spectacles de la matinée fut sans aucun doute la danse du jeune nain. Quand il entra en trébuchant dans l'arène, marchant comme un canard sur ses jambes torses et agitant de côté et d'autre son énorme tête difforme, les enfants se mirent à crier de plaisir et l'infante elle-même rit si fort que la caméréra dut lui rappeler que, s'il existait en Espagne de nombreux précédents d'une fille de roi pleurant devant ses égaux, il n'en existait aucun de princesse de sang royal se laissant aller à une telle joie devant ceux qui, par la naissance, étaient ses inférieurs.
Thank you.
que le nain avait de plus amusant était peut-être la totale inconscience de son aspect grotesque. En vérité, il semblait parfaitement heureux et plein d'entrain. Quand les enfants riaient, il riait aussi franchement, aussi gaiement qu'eux. Et à la fin de chaque danse, il leur faisait la plus comique des révérences, tout comme s'il était vraiment l'un d'entre eux, et non ce petit être contrefait et difforme que la nature, par quelques facétieux caprices, avait façonné pour servir à autrui d'objet de raillerie. Quant à l'infante, elle conquit le nain sans réserve. Il ne pouvait la quitter du regard et ne semblait danser que pour elle. À la fin du spectacle, l'infante se rappela avoir vu les grandes dames de la cour jeter des bouquets à Caffarelli, le célèbre soprano italien. Elle prit donc dans ses cheveux la belle rose blanche et, en manière de plaisanterie, la jeta au danseur dans l'arène en lui faisant son plus charmant sourire. Le nain prit la chose au sérieux et, pressant la fleur sur ses lèvres rudes, il posa la main sur son cœur et mit un genou en terre devant la princesse en souriant d'une oreille à l'autre, ses petits yeux vifs brillant de plaisir. Ce geste bouleversa si bien la gravité de l'infante qu'elle continua de rire longtemps après que le nain eut quitté l'arène et exprima à son oncle son désir de voir recommencer la danse sur le champ. Mais la caméra, sous le prétexte que le soleil était trop chaud, décida qu'il valait mieux que son Altesse rentrât tout de suite au palais où un festin merveilleux avait déjà été préparé en son honneur. L'infant se leva alors avec une grande dignité et, ayant donné des ordres pour que le nain dansât de nouveau pour elle après la sieste et remercié le jeune comte de Tierra Nueva de sa charmante réception, elle regagna ses appartements, les enfants observant pour la suivre l'ordre dans lequel ils étaient entrés. Quand le nain apprit qu'il allait danser une seconde fois devant la princesse, et sur sa demande expresse, il en fut si fier qu'il sortit en courant dans le jardin, baisant la rose blanche dans une absurde extase de plaisir et faisant pour exprimer sa joie les gestes les plus extravagants et les plus maladroits. Les fleurs étaient tout à fait indignées de son audace à s'introduire ainsi dans leur belle demeure. Et lorsqu'elles le virent faire des entrechats dans les allées et agiter les bras au-dessus de sa tête de si ridicule façon, elles ne purent se contenir davantage. Il est vraiment trop laid pour qu'on le laisse jouer dans tout endroit où nous sommes, s'écrièrent les tulipes. Il devrait boire du suc de pavot et dormir pendant 1000 ans, dirent les grands lys rouges avec colère. Mais c'est une parfaite horreur, cria le cactus d'une voix perçante. Quoi ? Il est tout noué et tortu, et sa tête est hors de proportion avec ses jambes. Vraiment, il me rend tout hérissé, et s'il m'approche, je le piquerai avec mes épines. Mais il a pris une de mes plus belles fleurs, s'exclama le rosier blanc. Je l'ai donné moi-même à l'infante ce matin pour son anniversaire, et il la lui a volée. et de toutes ses forces. Le rosier se mit à crier « Voleur, voleur, voleur !» Les géraniums eux-mêmes, qui d'ordinaire ne se donnaient pas de grands airs et étaient connus pour avoir beaucoup de parents pauvres, se contractèrent de dégoût à sa vue. Et quand les violettes firent observer avec douceur que, bien qu'il fût d'une laideur extrême, il n'y pouvait rien, ils répliquèrent avec assez de justesse que c'était là, précisément, sa plus grande faute, et qu'il n'y avait aucune raison d'admirer quelqu'un parce qu'il était incurable. Mais les lézards l'aimaient. Et quand il fut las de courir et se jeta sur l'herbe pour se reposer, ils vinrent s'ébattre et bondir tout autour de lui, essayant de l'amuser de leur mieux. Ne peut pas être aussi beau qu'un lézard, s'écrièrent-ils, ce serait trop demandé. Et bien que cela puisse sembler absurde, il n'est pas si vilain, après tout. Pourvu, bien sûr, qu'on veuille bien fermer les yeux et qu'on ne le regarde pas. Oui, les lézards étaient par nature très philosophes. Et pendant des heures, ils restaient assis à songer. On devrait bien le garder à l'intérieur pour tout le reste de ses jours, dirent les fleurs. Voyez ce dos bossu et ses jambes torses. Et les fleurs rirent tout bas. Mais le nain ne savait rien de tout cela. Il aimait de tout son cœur les oiseaux et les lézards et pensait que les fleurs étaient les choses les plus admirables du monde, à l'exception, bien entendu, de l'infante qui lui avait donné la belle rose blanche et l'aimait. Et c'était là bien autre chose. Il fallait que la princesse vint à la forêt jouer avec lui. Il y avait beaucoup de choses à voir dans la forêt. Et quand elle serait lasse, il lui trouverait un moelleux tapis de mousse ou la porterait dans ses bras. Car il était très fort, bien qu'il ne fût pas, il le savait, de haute taille. Mais où était l'infante? Il le demanda à la rose blanche, qui ne lui fit aucune réponse. Tout le palais semblait endormi, et là où les volets n'avaient pas été clos, d'épais rideaux tirés sur les fenêtres empêchaient la trop vive lumière du soleil de pénétrer dans les pièces. Le nain chercha tout autour de la demeure un endroit qui lui permit d'y entrer et aperçut enfin une petite porte privée restée ouverte. Il se glissa à l'intérieur et se trouva dans une salle splendide, beaucoup plus belle, il le craignait, que la forêt. Mais le nain se souciait peu de toute cette magnificence. il n'eût pas donné sa rose pour toutes les perles du Dais, ni même un seul de ses pétales pour le trône lui-même. Il ne désirait qu'une chose, voir l'infante avant qu'elle ne se rendît à la tente et lui demander de partir avec lui dès qu'il aurait fini sa danse. Ici, dans le palais, l'air était lourd et étouffant, mais dans la forêt, le vent soufflait librement et le soleil de ses caressants doigts d'or écartait les feuilles frémissantes. Il y avait aussi des fleurs dans la forêt, peut-être pas si belles que les fleurs du jardin, mais beaucoup plus odorantes. Oui, elle partirait sûrement avec lui s'il lui était possible de la trouver. Elle partirait avec lui vers la forêt magnifique et tout le long du jour, il danserait pour le plaisir de l'infante. À cette pensée, un sourire éclaira les yeux et il passa dans la salle suivante. De toutes les pièces, c'était la plus belle, la plus resplendissante. Et le nain n'était pas seul. Debout, sous l'ombre de la porte, à l'extrémité de la salle, il vit qu'un petit être l'observait. Son cœur frémit, un cri de joie s'échappa de ses lèvres, et il fit quelques pas vers la lumière. La forme se déplaça en même temps que lui, et il la distingua clairement. L'infante ? Hélas, c'était un monstre. Le monstre le plus grotesque qu'il eût jamais vu. Il n'était pas conformé comme tout le monde. Il avait une bosse dans le dos, les jambes torses, une énorme tête qui dodelinait et une crinière de cheveux noirs. Le nain fronça le sourcil et le monstre en fit autant. Il rit et le monstre rit avec lui. Les mains sur les hanches, tout comme il le faisait lui-même. Il fit une moqueuse révérence. Et un profond salut lui fut rendu. Il alla vers le monstre, qui vint à sa rencontre, imitant chacun de ses pas, s'arrêtant quand il s'arrêtait. Qu'était-ce donc ? Était-ce l'écho ? Il l'avait appelé un jour dans la vallée et il lui avait répondu mot pour mot. Pouvait-il imiter les objets aussi bien que la voix ? Pouvait-il créer un monde imaginaire semblable au monde réel ?
C'est un monstre.
Les ombres des choses pouvaient-elles emprunter la couleur ?
C'est
la vie ? Le mouvement ? Se pouvait-il que... Le monstre avait une rose, lui aussi, pareil à la sienne, jusqu'au moindre pétale. Quand la vérité lui apparut, il eut un cri déchirant de désespoir et se jeta à terre, en sanglotant. C'était donc lui qui était contrefait, bossu, hideux à regarder, grotesque. Le monstre, c'était lui. C'était de lui qu'avaient ri les enfants. Et la petite princesse, dont il se croyait aimé, avait tout simplement, elle aussi, ri de sa laideur, et s'était diverti à la vue de ses jambes torses. Pourquoi ne l'avait-on pas laissé dans la forêt, où il n'y avait point de miroir pour lui montrer combien il était repoussant? Pourquoi son père ne l'avait-il pas tué plutôt que de le vendre pour sa honte? À ce moment, l'infante elle-même entra avec ses compagnons par la porte-fenêtre. Et lorsqu'ils aperçurent l'affreux nain, ainsi, à terre, frappant le parquet de ses poings fermés de la façon la plus fantasque et la plus exagérée, ils éclatèrent en rire joyeux et firent le cercle autour de lui. Sa danse était drôle, dit l'infante, mais son jeu est plus amusant encore. Vraiment, il est presque aussi bon acteur que les marionnettes. Mais bien sûr, il n'est pas aussi naturel. Et elle applaudit. Mais le nain ne leva pas les yeux une seconde fois. Voilà qui est parfait, dit l'infante après un silence, mais maintenant, tu vas danser pour moi. L'infante se mit à taper du pied et appela le grand inquisiteur qui se promenait sur la terrasse. Mon nain si drôle est en train de bouder, s'écria-t-elle. Il faut lui dire de se lever et de danser pour moi. L'inquisiteur entra et de son gant brodé donna une tape sur la joue du nain. Allons, dit-il. Il faut danser, petit monstre. Il faut danser. L'infante d'Espagne et des Indes désire qu'on l'amuse. Mais le nain ne bougea point. Il faut envoyer chercher le maître fouetteur, dit l'infante avec lassitude. Mais le grand inquisiteur prit un air grave, s'agenouilla et lui posa la main sur le cœur. Au bout d'un instant, il haussa les épaules, se leva et s'étant incliné très bas, il dit « Mi bella princesa, votre nain si drôle ne dansera jamais plus. » C'est dommage, car il est si laid qu'il aurait pu faire sourire le roi. Mais pourquoi ne dansera-t-il plus, demanda l'infante en riant. Parce que son cœur est brisé, répondit le grand inquisiteur. Et l'infante fronça le sourcil, et ses délicates lèvres roses firent une jolie moue de dédain. Désormais, il faudra que ceux qui viennent jouer avec moi n'aient pas de cœur, s'écria-t-elle. Et l'infante sortit en courant dans le jardin.